L'Arabie Saoudite face au double défi du Yémen et du Liban. L'Arabie Saoudite, le plus grand et le plus riche pays arabe, mène simultanément une guerre militaire contre le Yémen, le plus pauvre pays arabe, et une guerre économique contre le Liban, le plus petit pays arabe, sans que le résultat en soit garanti pour ce cinquième client de l'armement mondial, ni pour ce géant de l'économie mondiale, membre du G20. Mais dans cette épreuve de force, le chef de file de l'islam sunnite fait face en fait à deux adversaires redoutables, deux personnalités charismatiques au palmarès militaire infiniment plus prestigieux que le sien, au Liban, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah chiite, et au Yémen, Abdelmalik al-Houssi, chef des Ansar Allah, relevant de ce que le wahhabisme considère comme l'islam schismatique. Analyse de René Naba.
Bonjour. Rendez-vous hebdomadaire, la revue de presse halal sur des sujets haram, les émissions Araga de Radio Galère animées par Kamar Idir. C'est mon rendez-vous hebdomadaire avec vous. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la guerre menée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen et le Liban. C'est pas banal cette histoire-là. L'Arabie Saoudite mène une guerre simultanée contre le Yémen, le plus pauvre pays arabe, et contre le Liban, le plus petit pays arabe. Mais le cinquième client de l'armement mondial, c'est pour vous dire à quel point il est armé, un arsenal complet, mais le cinquième client de l'armement mondial n'est pas sûr d'arriver à ses fins au Yémen contre le plus pauvre pays arabe, ni le géant économique membre du G20 ne pourra avoir résistance, vaincre la résistance du peuple libanais. Parce que la guerre menée par Mohammed ben Salman, le prince héritier, tant contre le Yémen que contre le Liban, l'oppose à des adversaires prestigieux, au palmarès militaire infiniment plus brillant que le sien. Abdel Houssi, le chef d'Ansar Allah, et Hassan Nasrallah, qui a déjà vaincu Israël à plus forte raison, le Mohammed ben Salman. Mohammed ben Salman, c'est une longue histoire. La guerre contre le Yémen a été déclenchée dans le mois qui a suivi l'accession au pouvoir de roi Salman, le père de le prince Mohammed ben Salman. Le Mohammed ben Salman voulait donner au monde la leçon d'un régime vigoureux. La guerre contre le Yémen, c'est la première guerre directe de l'Arabie Saoudite contre un quelconque pays, en plus c'est pour ça qu'elle a choisi le plus faible, depuis la fondation de la monarchie. L'Arabie Saoudite a toujours alimenté la guerre des autres, l'Irak contre l'Iran, les djihadistes contre la Syrie, ainsi Taliban et Qaïda contre l'Union soviétique. Jamais une guerre directe. La guerre contre le Yémen, elle l'a déclenchée en mars 2015, dans les deux mois qui ont suivi l'accession au pouvoir de son père, pour dire voilà, nous sommes de retour après 9 ans de léthargie consécutive à la maladie du roi Abdallah qui était un nononagénaire. Il est mort à 90 ans. Nous sommes là et on va châtier quiconque nous manque de respect. Il a été là, il a été, non pas lui, il l'a fait directement, mais il a fait une coalition de 7 pays qui comprenaient le Maroc, le Soudan, le Qatar, Abu Dhabi. Bon. Au fur et à mesure de la prolongation de la guerre, du prolongement de la guerre, beaucoup de ses alliés ont quitté. Le Maroc a quitté en premier lorsqu'on lui a abattu un avion et que l'Arabie Saoudite a tardé à reconnaître qu'un avion marocain a été abattu et que le pilote a été tué. Et il ne voulait pas tarder à, parce que c'était une honte que des va-nu-pieds du Houthis abattent un avion. Ça a été la grosse surprise. Alors qu'il y avait des missiles patriotes qui défendaient l'Arabie Saoudite, ils auraient pu défendre l'escadrille marocaine qui combattait, la honte du Maroc qui combat le Yémen, le plus pauvre pays arabe, qui est encerclé et tout. Bon, c'était déjà. Ensuite, le Qatar a abandonné, il a trouvé que c'était une guerre absurde, sans contrôle ni rien, il s'est retiré. Et maintenant, le Soudan, l'Égypte, le Pakistan, l'Algérie, la Turquie, l'Indonésie, c'est-à-dire les grands pays musulmans qui ont des puissances militaires, sont refusés à cette aventure. D'abord, l'Algérie pour des raisons de solidarité idéologique. Elle ne combat pas un pays arabe et en plus un pays qui se trouve dans le même camp idéologique qu'elle, combattant de la liberté contre l'hégémonie israélo-américaine et wahhabite. L'Égypte aussi, elle a dit, l'expédition du Yémen, j'en ai déjà donné il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça m'a suffi. Donc, au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, on se retrouve en tête avec l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, qui sont les chefs de file de la contre-révolution arabe. Le Mohammed Ben Salman a engagé l'opération avec l'aide des, non seulement des puissances occidentales, membres permanents du Conseil de sécurité. Il faut le dire, membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité du maintien de la paix dans le monde avec un droit de veto au Conseil de sécurité. Au lieu de pacifier, ils ont participé à l'agression pétromonarchique contre un pays membre de l'ONU. C'est un point noir dans l'histoire éthique des puissances occidentales. Deuxièmement, cette guerre a été faite aussi avec l'aide des mercenaires. Les Américains ont fait le blocus des mers et des ports du Yémen. La France a prêté main forte à un débarquement au sud Yémen par contourner le nord Yémen via Djibouti et la base française qui est à Abu Dhabi. Ils les ont aidés et ça a permis à Djibouti de favoriser l'implantation d'Al-Qaïda qui est sur une liste du terrorisme, donc d'implanter l'Al-Qaïda au Yémen de nouveau, alors qu'on l'avait expulsé. Tout ça au mépris du droit international et de la logique de la guerre contre le terrorisme déclenchée par les Occidentaux contre le monde islamique, que ce soit en Afghanistan et ensuite la dictature, les régimes dictatoriaux supposés, parce qu'on peut avoir une dictature du capital aussi qui est aussi corrosive qu'une dictature politique. Contre la Libye et la Syrie. Malgré tout ça, malgré le fait qu'on a fait appel aussi à des mercenaires français et américains, malgré le fait que le prince Walid Ben Talal a offert une Bentley à chaque pilote saoudien qui a participé au raid de la première semaine contre le Yémen. Une Bentley. Tu fais ton devoir si ton pays est agressé, tu fais ton devoir pour le pays. Normalement, les officiers saoudiens sont grassement payés infiniment plus que les officiers français. Et on t'offre une Bentley pour tirer deux bombes lâchées à distance contre le Yémen. Malgré tout ça, ils n'ont jamais opéré une percée militaire, malgré le fait que les Américains, les Français, les Anglais, les Saoudiens avaient la maîtrise du ciel, de la mer. Il restait la terre, mais la terre, l'artillerie rudimentaire des Houssis, des Vanupiers, a eu raison d'eux. Pourquoi ? Parce que Ben Salman s'est lancé dans cette guerre sans la moindre planification. Et il se dit, j'aurai un rapport que je publierai dans Madani en février. Très simple. Ils se sont lancés dans cette guerre parce que, d'après le service d'espionnage d'Abu Dhabi, qui espionnait MBS, mais qui a été contraint d'aller à la guerre parce que c'est un petit allié face au grand allié saoudien, parce que c'est un être impulsif et un loser. L'ancien directeur de cabinet des services de renseignement saoudien qui a échappé à la mort et qui s'est réfugié au Canada, dit dans une interview à une chaîne américaine passée en octobre, que Mohammed Ben Salman a une tellement schizophrénie qu'il a mis sa propre mère en résidence surveillée pour isoler son père, pour le forcer à lui céder le trône de son vivant. Il y a l'opposition de l'Amérique qui empêche. Tu vous rends compte, sa propre mère, il n'y a pas de halal haram là. C'est dans aucune religion, une mère, on la met en résidence surveillée. Même si c'est une piste, ce qui n'est pas le cas, on la traite autrement. En résidence pour l'empêcher de voir son père qui est malade. On l'empêche. Et lui, il ne voit son père qu'en tête à tête. C'est-à-dire que le père ne peut pas s'appuyer sur des conseillers pour avoir des contre-arguments. Il l'intimide. Pire que ça, il avait tellement hâte d'aller au pouvoir que du temps d'Abdallah, qui était non-algénaire et qui était hémiplégique, comme d'ailleurs Salman, qui a Alzheimer, il a songé à un moment donné de faire un coup d'État contre lui. Ce qui aurait été une première dans les annales de la monarchie saoudienne. Il y a eu un coup de force, une révolution de palais entre Saoud et Faisal, parce que Saoud dilapidait le patrimoine du royaume. Et le conseil des familles a demandé à Faisal de prendre le pouvoir à la place de roi Saoud, mais c'était un consensus familial. Là, c'était un coup d'État, et ça aurait été une première dans les annales. En septembre 2021, les Houthis ont encerclé Ma'arib. Ma'arib, si cette ville-là tombait, et de département, les Houthis auront assuré le contrôle total de tout le nord Yémen. Ça a créé un vent de panique. Les Anglais ont aménagé aussitôt après un grand centre d'espionnage et communication téléphonique de l'ensemble de la péninsule arabique pour essayer de capter les transmissions du nord du Houthis et essayer de déjouer leur plan. En superposition à ce centre d'espionnage le plus important de la péninsule arabique, l'Amérique a commencé dans le sud Yémen à aménager dans le district de Hadramout. Le Hadramout, c'est la plus importante province du Yémen, du nord et du sud, a commencé à aménager dans le Hadramout une piste aérienne. Ils ont une piste d'atterrissage de 300 mètres de long pour les avions gros cargo. Pour les avions gros cargo américains, non pas tant pour assurer le ravitaillement des blessés, du Covid, des personnes affamées par le blocus depuis 7 ans de la population par la marine de guerre américaine. Non. Elle a aménagé une grande piste d'atterrissage pour les avions cargo pour qu'ils puissent débarquer directement du matériel de guerre à l'Arabie Saoudite pour continuer à détruire le Yémen par ses raids contre les villes, contre les intentions. Toutes les grandes villes yéménites ont été soumises à un bombardement intensif de l'aviation saoudienne, de la coalition pétromonarchique, contre les civils. Ce qui est un crime de guerre. On poursuit la Libye, la Syrie, éventuellement le Liban pour des crimes de guerre, tribunal pénal international pour Hariri, alors en mettant en cause le Hezbollah ou la Syrie, mais rien contre l'Arabie Saoudite qui continue à être invitée dans les forums internationaux. Je le souligne parce qu'il y a une duplicité occidentale et c'est une honte à l'Occident d'invoquer des valeurs démocratiques et des valeurs humanitaires et de se comporter comme un État voyou de la pire espèce. Sur ces entrefaites, l'Arabie Saoudite a engagé des négociations avec l'Iran en Irak. Ils ont dit « Please, patron !» Il dit « C'est le chef de file du monde islamique, mais le rapport de force sur le terrain n'est pas pareil. » Ils disent à l'Iran « Please, patron, il faut les Houthis là, ils nous égorgent, il faut arrêter. » Et les Iraniens, fidèles à leur principe de ne pas dicter, parce qu'ils ont confiance dans leurs alliés, c'est pas comme les Saoudiens, tu fais ça, Hariri, tu fais ça, Samir Jarja, tu fais... Non, eux, ils disent « Vous avez une marge et vous gérez. » Ils ont dit « L'affaire des Houthis au Yémen, vous vous adressez aux Houthis. Et si vous ne pouvez pas, nous, on est Iraniens, adressez-vous aux Arabes. Nasrallah, qui est proche, un combattant, même aux Palestiniens du Hamas qui sont redevenus avec nous amis. » OK. Donc, ça a été très difficile pour l'Arabie Saoudite de demander à Hezbollah, alors qu'ils sont en train de les encercler depuis 4 ans. Ce qui s'est passé, ils ont déniché une déclaration d'un journaliste libanais qui disait que la guerre du Yémen est une guerre absurde. Ce n'est pas une agrégation de grammaire. Hein. Tout le monde le sait. Les Occidentaux le disent. Il le disait en tant que journaliste dans Al Jazeera. Entre-temps, 6 mois après, il est devenu ministre. Les Saoudiens ont pris prétexte. Un ministre libanais a insulté le gouvernement libanais en disant que c'est une guerre. C'est pas en tant que ministre. C'est en tant que journaliste. Et il n'a pas dit que c'est des salopards, les Saoudiens, ceux qui peuvent l'être, enfin ceux qui ont laissé l'agression contre lui. Donc, il a rompu les relations, il a rappelé l'ambassadeur, il a interdit les importations. Bon, c'est quoi ça? Une guerre économique contre le Liban, alors qu'il est déjà sous blocus américain depuis 3 ans. Biden, Donald Trump, c'est pareil dans leur politique à l'égard du Moyen-Orient. Ne croyez pas. Biden donne une image un peu plus moins agressive, mais c'est tout. Mais aussi, elle est aussi pernicieuse. Il faut le dire, tout ça. Donc, il a pris prétexte pour créer, étrangler encore davantage le Liban. Ce n'est pas la première fois qu'il prend des prétextes pareils, l'Arabie Saoudite. Il est fort avec les faibles. Au lieu de s'attaquer au Qatar, parce que l'interview du ministre, qui était journaliste, a été faite à la chaîne Al Jazeera, au lieu de faire des représailles contre Al Jazeera qui a diffusé les propos, il s'en prend à un Libanais qui était journaliste quand il l'a fait. Donc c'est une atteinte à la liberté de la presse. Et on ne prend pas prétexte d'une déclaration d'un individu pour prendre en otage tout un État. Mais on n'en est pas ça. Ils ont pêle-mêle pris des prétextes différents. Tantôt que le Liban favorise le trafic du Captagone en direction de l'Arabie Saoudite. Tantôt, Hariri s'est couché devant le Hezbollah et leur a permis de dominer le Liban. Ils ont kidnappé Hariri. Ils ont kidnappé un premier ministre en exercice, ils l'ont kidnappé. Personne n'a sanctionné. Personne n'a sanctionné l'Arabie Saoudite. Mais c'est le Liban qu'on sanctionne. Je vais vous dire pourquoi. Le Captagone. Pourquoi ils en veulent au Liban ? C'est pas pour le Yémen. D'abord pour le Yémen parce qu'eux, ils sont dans la merde. Pour le Captagone, un jour, un prince saoudien, pas n'importe quel prince saoudien, le fils du gouverneur de la Mecque, je répète, un prince saoudien, fils du gouverneur de la Mecque. La Mecque, c'est pas Las Vegas, c'est les deux lieux saints de l'islam. Et le roi d'Arabie est le gardien des lieux saints. Le fils du gouverneur des lieux saints, qui n'est pas Las Vegas, a été chopé à l'aéroport de Beyrouth avec 20 valises diplomatiques, une flotte de limousines contenant 2 millions de comprimés de Captagone. 2 millions de comprimés de Captagone. Achetés dans les laboratoires qu'on faisait que dans la Beka ou ailleurs, il y avait des laboratoires qui préparaient le Captagone pour les vendre à Daesh, Al-Qaïda, pour rester 6 jours à combattre le régime Bachar el-Assad qui devait tomber, mais il n'est pas tombé. Eux, ils sont en train de tomber les uns après les autres. Et 2 millions de Captagone qu'il achetait 20 centimes le comprimé et qui vendait $25 en Arabie Saoudite. 2 millions de tonnes de Captagone, 2 millions de comprimés de Captagone au bout de 20 valises diplomatiques et estampillées aux armoiries d'Arabie Saoudite qu'ils devaient transporter à bord d'un avion de la flotte royale privée de l'Arabie Saoudite. Le Captagone, ce n'est pas le Liban qui l'exportait, c'est le fils du gouverneur de la Mecque, le gardien des lieux saints. Plus gardien des lieux saints que le roi, parce que lui, il est gouverneur de la Mecque. Voilà, ça, c'était un scandale. Mais il y avait un tel scandale que le Liban, pour ne pas blesser l'amour propre saoudien, il a installé ce trafiquant de drogue, qui est, même s'il est prince et fils de gouverneur, il l'a installé dans le commissariat principal de Beyrouth, avec une chambre, une douche, télévision, téléx, portable. Il avait droit tous les jours à recevoir un petit déjeuner d'un restaurant à côté, le déjeuner, le dîner, une teinturerie, tout. Il est là-bas. Bon, maintenant, ils font pression pour qu'on le libère. Mais comment peut-on, quand on lutte, quand l'Amérique demande au Liban de lutter contre le trafic des drogues, quand on autorise le meilleur allié arabe des États-Unis à pratiquer la drogue? Ça, c'est un trafic lucratif pour les Saoudiens. Les Saoudiens, moi, j'ai souvent été en Arabie Saoudite, une dizaine de fois. C'est de gros consommateurs d'alcool, croyez-moi. À l'époque où j'y allais, la bouteille de whisky coûtait $800. Et maintenant, le Captagone. Et les films porno aussi, j'en connais des gens qui leur expédiaient. Donc, il ne faut pas aussi faire supporter au Liban les turpitudes de la monarchie saoudienne. Il y a eu la capture, le kidnapping, ils l'ont baffé, ils l'ont giflé à Hariri, qui était Premier ministre en exercice. On en veut au Liban, Hezbollah, au général Michel Aoun, le président de la République, d'avoir exigé sa libération, alors qu'il est l'allié des Saoudiens. On en veut au Liban pour le Captagone, c'est pas lui. On en veut au Liban parce qu'il y a eu une déclaration sur le Yémen, alors que ce sont les Saoudiens qui sont dans la nase au Sud-Yémen, au Nord-Yémen. C'est pour toutes ces raisons qu'on fait cette guerre au Liban. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'avec toute la guerre contre les deux plus faibles pays arabes, il oublie le roi d'Arabie, non, pas le roi, le prince héritier, il oublie une chose, que les faits d'armes du Hezbollah en font un des mouvements de libération les plus prestigieux du tiers-monde à l'égal du FLN vietnamien, du FLN algérien et des barbouzes cubains. Il se trompe. Alors le problème, la question qui se pose actuellement, pour qui sonne le glas ? Pour qui sonne le glas ? Ne posez jamais la question de savoir pour qui sonne le glas. Le glas sonne pour vous, Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie, erratique, impulsif, psychotique, criminel. Wassalamu alaikum.
سكروا الشوارع عتموا الشارات زرعوا المدافع هجروا الساحات وينك يا حبيبي بعدك يا حبيبي صرنا الحب الصارخ صرنا المسافات اشتقنا للايام السعيده ايام السهر
Just so you feel.